toujours en direct du Salon du Livre, Livre Paris, pour une belle tablée entourée de journalistes, d'écrivains, critiques littéraires, sociologues. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. Et en public, pardon, bonjour à tous, merci de nous suivre ici à Paris. Et vous peut-être aussi de l'autre côté du poste, chez vous. Main dans la main avec le Figaro littéraire aujourd'hui et Mohamed Aissaoui, bonjour.
Bonjour.
Dans l'actualité des idées, peut-on faire le procès des écrivains du tribunal médiatique à la mise au ban du cercle éditorial de Michel Houellebecq à Richard Millet, de Maurice Dantec à Marc-Édouard Nab, la littérature mise en examen, à moins que ce ne soient les hommes qui écrivent ces livres. Peut-on d'ailleurs séparer l'œuvre et l'auteur? La littérature est-elle autonome face à tous les enjeux extérieurs? On en débat aujourd'hui avec l'écrivaine et éditrice, directrice générale des éditions Léo Cher, qui publie « Réprouvé, banni, infréquentable ». Angie David, bonjour.
Bonjour.
Avec la sociologue aussi Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de sociologie, celle des intellectuels, de la littérature et de la traduction, auteur de La guerre des écrivains, 1940-1953, paru chez Fayard, réédité en 2006, ou encore de La responsabilité de l'écrivain, publié au Seuil en 2011. Bonjour Gisèle Sapiro.
Bonjour.
Et enfin, à vos côtés, le critique littéraire Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt. Il préfacera peut-être un jour les pamphlets de Céline, si ceux-ci sont réédités par Gallimard. Et vous parlerez d'un auteur que vous connaissez bien à ce moment-là, Pierre Assouline. Bonjour à vous, merci d'être là avec nous.
Bonjour.
Enfin, Antoine Mercier est resté à mes côtés pour cette émission. Angie David, pour commencer sur cet ouvrage qui paraît réprouvé, banni, infréquentable, qui est un recueil collectif de textes, de portraits, de profils d'auteurs qui auraient subi les foudres de ce tribunal médiatique et éditorial. Dans l'avant-propos, vous écrivez 15 écrivains, penseurs, essayistes, certains morts, les autres toujours actifs, qui ont en commun d'avoir rompu avec un système d'autant plus ambigu qu'il parvient parfois à en récupérer quelques-uns et même à participer à leur notoriété. La plupart d'entre eux ont subi ce qu'on appelle une affaire, une forme de symbolique de lynchage, dont certains ne se sont pas remis, et ceux qui n'en ont pas été l'objet n'en ont pas moins subi le discrédit. Alors de quoi les écrivains qui sont cités, étudiés dans ce livre, sont-ils coupables? Qu'est-ce qu'ils auraient reproché, Angie David?
Ils auraient reproché d'avoir tenu parfois des propos scandaleux, que ce soit dans leur œuvre ou en dehors, souvent dans les médias d'ailleurs, à l'occasion d'une émission ou dans un article de presse. Et donc on leur reproche de tenir des propos que la société actuelle juge insupportables, inadmissibles. Et au lieu d'essayer d'engager une discussion avec eux, de voir si on peut effectivement se poser certaines questions et mettre un jugement critique, on préfère les censurer, les bannir au sens où on les empêche de s'exprimer, on les empêche de publier, on ne leur offre plus aucune exposition médiatique, ce qui a des incidences concrètes sur la possibilité d'être publié, de vendre des œuvres, de pouvoir continuer à être des écrivains et des penseurs.
Est-ce que ça leur a été reproché à tort ou à raison? Est-ce que vous avez simplement pris le parti de ne pas en juger?
Oui, moi je préfère ne pas en juger. Justement, la question c'est de se dire il est vraiment dommage de bannir au lieu d'engager justement cette réflexion. Les artistes sont des gens libres, indépendants, ils ne se posent pas comme des modèles, ils ne sont pas là pour représenter ce que chacun devrait être ou penser, ils sont juste là pour témoigner de ce qu'ils voient. Le regard qui est le leur est singulier, parfois étrange, parfois scandaleux, oui c'est vrai, mais il mérite d'être dit. Et à mon avis, il est beaucoup plus salutaire de laisser ces écrivains-là s'exprimer plutôt que de les bannir, car on va induire une sorte de déni de réalité qui sera beaucoup plus néfaste, car il peut engendrer une forme de frustration, voire de haine, alors que finalement l'expression et la représentation de la réalité n'est pas en soi nocive.
Donc vous appelez à ouvrir le débat. Est-ce que juste d'entrée, vous parleriez quand même d'une entreprise de réhabilitation littéraire, éditoriale, voire humaine de ces auteurs?
Alors sur le plan humain, ça je ne jugerai pas, mais sur le plan littéraire, oui, il ne s'agit que d'auteurs et de penseurs importants. Et d'ailleurs, il me semble que l'effet positif du bannissement, c'est de justement reconnaître cette importance. On ne prendrait pas la peine de bannir un auteur médiocre. Si on le bannit, c'est parce que justement, son œuvre est d'une puissance artistique ou intellectuelle indiscutable. Et donc, oui, je veux réhabiliter ces auteurs en tant qu'auteurs et qu'on puisse continuer à les publier et à les lire.
Alors, une question réprouvée, bannie, infréquentable, une question de Mohamed Aissaoui.
Oui, d'abord, j'aimerais un petit peu relativiser tout de même. Nous ne sommes pas dans certains pays comme la Turquie, où une centaine d'écrivains ont été emprisonnés, kidnappés, voire pour certains tués. Donc voilà, c'est juste pour relativiser un petit peu. Mais ma première question est toute simple, c'est qu'est-ce que c'est concrètement un écrivain réprouvé, banni, infréquentable? Ne s'agit-il pas simplement d'une question du point de vue où l'on se place? Quelqu'un comme Michel Houellebecq, qui est dans une des figures phares du recueil, est-ce qu'il est infréquentable? Il a fait tous les plateaux télé, il a eu le prix Goncourt, le prix Interallié. Voilà.
Une première réponse d'Angie David, après j'aimerais bien entendre Gisèle Sapiro.
Le cas de Michel Houellebecq, effectivement, est à part. Mais d'abord, il y a quand même eu un jugement. Quand il a porté ses propos malheureux sur l'islam, il y a eu jugement. Il y a eu un procès. Deuxièmement, je pense que justement, il y a une sorte d'inversion qui fait que c'est son succès qui le protège. S'il ne vendait pas autant, aurait-il la même exposition médiatique? Et effectivement, d'autres auteurs qui sont dans le recueil, comme Marc-Edouard Nab ou d'autres, eux vendent beaucoup moins, et là, il est beaucoup plus facile de les museler.
Gisèle Sapiro, qui est ce on? Et vous, à la lecture de ce livre, est-ce que vous voyez bien la différence entre réprouver ceux qui auraient été réprouvés, bannis, infréquentables? Est-ce qu'on peut aujourd'hui les rassembler dans le même recueil?
Oui, je me pose effectivement la question de qui est ce « on ». Je pense que dans ce recueil, on mélange des cas extrêmement différents. On a deux cas de figure. On a le cas de figure de censure qui passe par les lois limitant la liberté d'expression en régime démocratique. Donc c'est pas de la censure, mais c'est en fait la censure a posteriori quand des propos ont outrepassé les limites assignées à ces lois. Il n'en va pas du tout de même, évidemment, comme on l'a dit, dans les régimes où il n'y a pas de liberté d'expression. Donc le fait que le principe de la liberté d'expression, c'est qu'il puisse y avoir débat, discussion, que toutes les opinions puissent s'exprimer et qu'elles puissent être contredites.
Alors quand sur le on contredit, Angie David l'a un tout petit peu formulé déjà, c'est à la fois le tribunal de l'opinion, de ceux qui fabriquent cette opinion, c'est-à-dire les journalistes en premier lieu, et puis les éditeurs, à savoir si on continue ou pas à publier ces auteurs. Est-ce qu'on peut tout publier aujourd'hui?
Enfin, d'abord, tous ces auteurs ont publié. Je ne vois pas en quoi Simon Less a été censuré. Il a publié son livre, il s'est exprimé. Il y a eu débat contradictoire, mais je ne vois pas en quoi ils ont été censurés. C'est ça que je peine à comprendre.
Richard Millet, par exemple, peut-être.
Mais il n'a pas été censuré. Il a publié ses livres, Richard Millet. En quoi il a été censuré?
Ben, ce qui est intéressant, c'est sur certains parcours, par exemple, de voir la progression des maisons d'édition. Vous prenez le cas de Renaud Camus, qui est extrême. Il commence chez POL, une maison d'édition ultra branchée. Il est adoubé par Roland Barthes, récupéré ensuite par Claude Durand, chez Fayard, qui était quand même un éditeur qui avait du cran, on ne peut pas lui enlever ça. Et aujourd'hui, il se publie lui-même. Donc on voit bien quand même cette progression.
Oui, mais il y a une responsabilité de l'éditeur, et les éditeurs ont une politique, et... aucun éditeur n'est tenu de publier des choses qui correspondent pas à ce qu'il considère de publiable. Donc la liberté d'expression, c'est aussi ça. C'est la liberté et la responsabilité des éditeurs, la liberté et la responsabilité des critiques, la liberté et la responsabilité des libraires, et tout le monde, et évidemment des lecteurs également.
Une question d'Antoine Mercier. Oui.
Alors justement, Angie David, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça regroupe un certain nombre d'auteurs, donc... depuis Muret, Dantec, Millet, on en a parlé, Renaud Camus, etc., Pierre Boutang, Debord et Houellebecq. Qu'est-ce que finalement, si on regarde bien ce que disent, parce que ça sera intéressant de voir le point commun, qu'est-ce qui est dit dans cet univers qui n'est pas homogène, hein, dans l'univers de pensée et de réaction, qui fait que ça ne peut pas rentrer dans les cadres, dans les cadres classiques, dans le mainstream de l'édition ou de la littérature ou du public?
Mais disons
est-ce
que c'est
qu'on peut
vrai
trouver
que...
un point commun?
Alors, peut-être s'il y avait un point commun, ce serait le combat contre la mondialisation, le capitalisme mondialisé. Finalement, ils se rejoignent tous sur ce point. C'est peut-être la seule chose vraiment qu'ils ont en commun. Mais sinon, c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, puisque ce sont justement des écrivains, donc des individus libres, donc totalement indépendant.
Mais est-ce que vous faites un rapport entre ce point commun et le fait qu'il soit comme ça réprouvé parce que vous
oui,
dites
certainement,
comme...
certainement qu'il y en a un. Alors moi, je ne rentre pas dans des considérations économiques. Hein, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre le point de vue littéraire. Mais je pense quand même que oui, il y a quelque chose qui participe de ça. Et le fait de combattre ça, on va dire que le pendant, c'est de faire une littérature qui serait justement plus consensuelle, plus mainstream et qui, elle, se vendrait. Et qui, elle, jouerait le jeu du capitalisme. Pierre Assouline, on ne vous a pas encore entendu.
Oui, moi j'ai lu ce recueil très attentivement. Ce sont des portraits, certains très talentueux. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a des gens qui ne devraient pas y être. Enfin, le concept général, réprouvé, infréquentable, etc., est beaucoup trop flou. Houellebecq n'a pas sa place. C'est l'écrivain le plus fréquenté de France. C'est l'écrivain officiel de la France à l'étranger. En fait, il n'y a pas de censure. Donc, ce n'est pas le mot « censure » qui devrait être subliminal dans ce recueil. C'est le mot « paranoïa ». Quand un écrivain n'a pas d'article dans le Figaro, et Mohamed Aissaoui le sait bien, tout de suite, il s'estime censuré. Mais ça serait le cas dans ce cas-là de milliers d'écrivains. Donc, quand un écrivain que son éditeur, comme l'a rappelé Gilles Sapiro, décide de ne plus le publier, ce qui est son, non seulement son droit, mais j'allais dire son devoir, parce qu'il obéit à sa conscience d'éditeur, bien, il a le droit. C'est pas pour autant qu'il le censure. Ça a été le cas de POL pour Renaud Camus, on a été expliqué. C'est le cas aussi pour Nab. Mais ce que je regrette, c'est que ces écrivains qui, très souvent, ont eu une heure de gloire, ont été adoubés, encensés, loués par beaucoup de grands journaux et de grandes maisons d'édition et de grandes émissions de radio, très souvent. Dès lors que ce n'est plus le cas, ils s'estiment censurés, rejetés. C'est le jeu de l'édition. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs, ils ne sont pas infréquentables. À la limite, on galvaude le mot censure ou l'idée de censure. Parce que, par exemple, pour moi, quand Richard Millet fait l'objet d'une pétition qui ressemble et qui relève du lynchage, là, il y a une censure. Ça, c'est de la censure. Là, ça, c'est inadmissible. Mais sinon, quand un éditeur décide de se passer de Marc-Edouard Nab, ça n'a rien d'extraordinaire. Il était chez Gallimard. Quant à Houellebecq, excusez-moi, c'est encore une fois, il n'y a pas moins censuré que Houellebecq. C'est l'écrivain le plus officiel de France.
Gisèle Sapiro, à partir du moment où la rébellion, l'outrance est devenue aussi une posture ou tout simplement peut-être un lieu commun en littérature, qu'est-ce qui peut bien encore déranger aujourd'hui et justifier, pour reprendre les mots d'Angie David, ce bannissement pour certains d'entre eux ou la mise de côté? Bon, Pierre Assouline peut-être d'abord.
Non, mais il n'y a pas de complot, il n'y a pas de bannissement et surtout, il n'y a pas d'écrivain maudit en France. Il faut arrêter avec ça.
Effectivement, on a le sentiment quand même d'une rhétorique du complot dans cet ouvrage que je trouve totalement injustifiée. Moi, j'ai écrit mon livre sur la liberté, sur la responsabilité de l'écrivain. C'est un livre sur les luttes menées par les écrivains pour conquérir cette liberté d'expression. Là, j'ai une histoire des réprouvés, des bannis qui ont été censurés par la loi, qui se sont battus pour étendre les limites. Cela, il ne figure pas du tout dans cet ouvrage. Là, on parle d'écrivains qui ont publié, qui ont aussi fait de la provocation, qui ont joué parfois avec les limites de la liberté d'expression, qui sont quand même très minimes en régime démocratique, et qui le faisaient en connaissance de cause. D'ailleurs, ils savent très bien, Richard Millet sait très bien qu'il ne va pas faire une apologie d'Anders Breivik. Donc, il joue avec la limite, mais sans rentrer dans quelque chose qui pourrait susciter une réaction d'ordre judiciaire. Voilà. Donc, tous les écrivains ont toujours travaillé sur ces limites du disciple, mais là on parle d'idéologie, hein, on ne parle pas des limites littéraires, on parle vraiment d'idéologie. Ce sont des écrivains qui ont émis des positions qui sont aujourd'hui effectivement pas majoritaires dans un régime. Ils critiquent en fait ce qu'ils critiquent, c'est l'idéologie dominante du droit de l'hommisme, comme ils l'appellent, etc. Mais évidemment, Debord et Pasolini sont juste des cautions de gauche dans cette histoire, parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Voilà, donc c'est normal aussi que ceux qui défendent ces principes réagissent, surtout qu'il y a un style quand même pamphlétaire qui prévaut dans beaucoup de ces écrits, hein, qui appellent en fait des réactions qui ne sont pas de l'ordre du débat d'idées non plus. Donc voilà. Donc il y a la question aussi de l'autonomie du débat d'idées, de comment est-ce qu'on mène des querelles avec des arguments véritablement intellectuels. Hein, et il y a la question des débats hétéronomes, parce qu'on est dans un univers où il n'y a pas de contrôle à l'entrée. Hein. C'est pas comme il ne faut pas avoir un diplôme pour devenir écrivain, il ne faut pas, il faut pas passer un concours. Donc la régulation se fait par les scandales, les polémiques, les controverses. Et donc c'est ça qui détermine en fait cette agitation permanente dans le monde littéraire, mais en même temps, voilà, ça doit se faire selon certaines règles, et quand ces règles sont outrepassées, eh bien, le monde littéraire réagit et défend son autonomie.
André David, il y a effectivement différents degrés d'exclusion dans les profils que vous présentez dans cet ouvrage collectif, ça on l'a déjà, je pense, bien évoqué, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, se pose la question ouverte par Gisèle Sapiro de la responsabilité de l'écrivain. Est-ce que là, dans cette présentation que vous en faites, à travers des profils même très différents, il n'y a pas une sorte de victimisation qui est faite de l'écrivain, alors que la plupart savent quand même aussi ce qu'ils pouvaient provoquer par leur texte?
Non, mais je ne suis vraiment pas du tout d'accord. Il n'y a absolument aucune théorie du complot là-dedans, c'est totalement faux. Il y a une réalité. Moi, je suis éditeur. J'ai édité beaucoup d'écrivains de ce type d'écrivains. Marc-Edouard Nab, Richard Mille actuellement. Gabriel Matzneff à une époque avant qu'il soit récupéré par Gallimard. Il y a une réalité. À un moment donné, ces gens-là ne sont plus publiés. Il est très difficile d'en faire parler dans les médias. Je le sais, je fais ce travail-là tous les jours. Donc ça, c'est pas une théorie du complot, c'est une réalité. Pasolini et Debord, ce ne sont pas des cautions de gauche. J'étais sûre que vous diriez ça. Pasolini, pour de bon, quand il prend des positions contre l'avortement, le milieu intellectuel de gauche qui le soutient est horrifié. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de ça. On ne se souvient que de la beauté de cet artiste. On ne se souvient pas de ça. Et ça, c'est une réalité. Debord, il s'est suicidé. Il s'est lui-même exilé. Il a été ensuite récupéré. Il a dénoncé la société du spectacle. Il a ensuite récupéré comme un élément du spectacle. Je pense qu'il se retourne dans sa tombe aujourd'hui. Il a été très critique envers des figures comme Philippe Solers, par exemple, qui aujourd'hui se revendique de lui. On voit très bien comment ce système s'inverse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que finalement, c'est l'aspect aussi positif. C'est qu'au bout d'un moment, le milieu intellectuel les bannit, mais ensuite les réintègre finalement dans son propre système. Et ça, c'est l'aspect positif.
Mais le milieu intellectuel, ça n'existe pas. Parce que, à la façon dont vous en parlez, ce serait un bloc homogène. Ce n'est pas un bloc homogène. Quand j'ai lu attentivement le portrait de Simon Leys, Simon Leys, très tôt, a été soutenu par une partie du milieu intellectuel qui tout de suite avait vu les aspects criminels du régime maoïste et qui l'a soutenu. Et par la suite, il a été soutenu par l'ensemble. Le portrait qui est fait de lui, qui est très intéressant, cite les articles, les revues comme commentaires qui l'ont soutenu, qui étaient... Bon, mais vous avez oublié qu'il est passé à apostrophe dès ses premiers livres. Il a fait un tabac à apostrophe. C'est pas vraiment une situation d'intellectuel maudit. C'est pour ça que quand on dit les écrivains, les intellectuels, il faut faire la part des choses. Que des écrivains maolâtres comme Solers et quelques autres se soient affrontés à Simon Leys et les boycottés, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Que Raymond Aron ait été boycotté à la Sorbonne après 68, c'est normal. Et que par la suite... Il a été. Mais tout ça, c'est partie du jeu, à la fois intellectuel, du débat d'idées, des universitaires, c'est le débat. Ça s'est toujours passé comme ça.
Il y a quand même l'idée qu'il existe tout de même.
Il n'y a pas de complot.
Mais il y a quand même une pensée, un univers, un champ, ce que vous voulez, qui fait consensus et des valeurs à l'extérieur qui, quand elles sont contestées, suscitent malgré tout une hostilité.
Je rappelle juste que ceux qui étaient menacés d'interdiction pendant la période maoïste, c'était la gauche prolétarienne, c'était les maoïstes eux-mêmes. Et Sartre, c'est pour ça que Sartre s'est placé comme caution. Il ne souscrivait pas du tout à leurs idées, mais c'était pour les défendre sur le principe de la liberté d'expression. C'est eux qui étaient menacés d'interdiction.
Oui, mais bien sûr, non, mais chaque époque a ses réprouvés.
Non, mais par rapport à Simon Leys.
J'aimerais poser une question à Pierre Assouline, qui a beaucoup fréquenté les écrivains en les interviewant, notamment Houellebecq. est-ce qu'ils n'ont-ils pas joué avec cette part de la provocation? Houellebecq, c'est le cas type où dans son œuvre on peut ne trouver rien qui soit condamnable, et notamment quand il a été condamné, du moins pas condamné, mais accusé sur les histoires d'islam, etc. C'était suite à une interview, d'ailleurs c'était vous qui l'avez interviewé, quand vous dirigez Lire. Est-ce qu'il n'en joue pas avec cet art de la provocation?
Bien sûr qu'il en joue. Il se présente comme victime en permanence, alors qu'il tient le haut du pavé. C'est une plaisanterie. Houellebecq est le seul écrivain français qui, quand il sort un livre, est invité au journal de France 2, et non pas seulement à la Grande Librairie, au journal de France 2. Ça n'arrive jamais, oui. Parce que c'est rare pour un écrivain, c'est exceptionnel. Bon, c'est pas ça un écrivain maudit. Donc, il faut arrêter de jouer les victimes, mais à la limite, c'est plutôt drôle aujourd'hui de voir ça, de le voir jouer à l'écrivain maudit. Et il n'est pas le seul. Il y aura toujours des éditeurs pour les écrivains, même les écrivains prétendument maudits. Et Angie, le fait que les éditions Léo Scher existent, que vous les publiez. Vous publiez Matzneff aujourd'hui, après Gallimard, mais avant Gallimard, il y a eu la Table Ronde, il y en a eu beaucoup d'autres. Matzneff a toujours pu publier ses livres.
Prenons le cas de... Pas au moment où on l'a récupéré, c'est pas vrai. Moi, je me souviens très bien, en 2005, il n'avait plus d'éditeur et Emmanuel Pierrat, l'avocat Emmanuel Pierrat, est venu nous voir et nous a demandé, quasiment comme un service, de récupérer l'ami Matzneff et ensuite Gallimard l'a réintégré.
Mais d'accord, bien, dans la vie de tous les écrivains, il y a des moments où leurs livres intéressent moins les éditeurs et d'autres où ça les intéresse plus, c'était ça revient. Même... C'est pareil pour les cinéastes, ils n'en font pas des... Je veux dire...
Pierre Assouline, prenons le cas de, par exemple, prenons un nom, Philippe Muret. Bon, oui. Est-ce qu'il a eu la place qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas aussi critique par rapport à la société, aux tendances de la mode, de l'homo festivus, etc. Est-ce que vous pensez qu'il a eu la place?
Mais ça a été le cas de Baudelaire à ses débuts. En revenant un peu dans l'histoire littéraire, Baudelaire à ses débuts, c'était pas non plus... on parlait pas de lui comme un écrivain officiel. Il était très critiqué. Ça a toujours été comme ça. Et Philippe Muret, c'est vrai qu'au départ, c'était plus difficile. Aujourd'hui, c'est un titre posthume malheureusement pour lui, mais aujourd'hui, Philippe Muret, il fait partie, je ne dirais pas... C'est pas la pensée unique, il s'agit pas de ça, mais... C'est le haut du panier de la pensée. De même que Guy Debord, alors on dira, il est récupéré. Ben oui, il est récupéré à titre posthume. Ce ne sont pas des écrivains anti-système. Muret a critiqué le système au moment où il le fallait, notamment l'homo festivus, Jacques Lang, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'homo festivus tenait au haut du pavé. Aujourd'hui, ça s'est inversé.
Et les mutins de Panurge.
Mais c'est la vie des idées. Et ça s'est passé comme ça en peinture, en cinéma, dans tous les arts.
France Culture, il est 13h20. On est en direct du salon Livre Paris jusqu'à 13h30 avec nos invités.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et autour de cette grande, grande table violette aujourd'hui en direct du Salon du Livre avec un public présent aussi pour vous écouter, mesdames, messieurs, il y a Pierre Assouline qu'on vient d'entendre, critique littéraire, il y a Gisèle Sapiro, sociologue, spécialiste de ces questions, sociologie des intellectuels, de la littérature, de la traduction. Il y a Angie David qui publie donc cet ouvrage controversé dont nous parlons aujourd'hui, ce recueil de portraits d'écrivains réprouvés, bannis, infréquentables aux éditions Léo Scher, édition dont vous êtes la directrice générale, et puis notre partenaire du Figaro littéraire, Mohamed Aïssaoui. Vous venez d'évoquer le mot peut-être qu'on peut relancer, Pierre Assouline, débat d'idées, faire entrer Charles Maurras dans le grand livre des commémorations, republier les pamphlets antisémites de Céline. Est-ce que tout cela aussi, il faudrait le faire au nom du débat d'idées, au nom de l'histoire politique et intellectuelle de la France? Est-ce qu'il faut tout éditer, tout accepter, Pierre Assouline?
Ben, je ne sais pas ce que vous mettez dans tout, si vous mettez également la littérature pornographique, pédophilique, scatologique. Donc, dans le tout, il faudrait expliciter...
Comment vous définissez-vous ce tout, cette
catégorie? Non, c'est pas moi qui l'emploie, c'est vous, donc c'est à vous de
définir. Justement, je vous pose la question.
Moi, je ne dirai jamais
tout. Quelles sont les limites pour vous?
Non, mais là, on parle de littérature, on parle d'écrivain. S'agissant de Céline, pour moi, ça me paraît évident que c'est l'un des écrivains français qui domine le XXe siècle, pour différentes raisons, et qu'il faut tout publier de Céline, que Céline il n'y en a pas deux, un méchant polémiste et un bon romancier, il n'y en a qu'un. Il faut arrêter de se boucher le nez sur l'un et pas sur l'autre. Donc c'est une hypocrisie sans nom. Et surtout, publier ces pamphlets, c'est surtout pour montrer aux gens ce qu'a été l'antisémitisme entre les deux guerres. Au lieu de cacher ce côté-là, il faut le publier, bien sûr, et le plus possible, j'allais dire, le plus largement possible. Bien sûr, quant à Maurras, je trouve tout à fait normal de le mettre dans le livre des commémorations, tout simplement parce qu'il a eu un rôle, il a tenu une place dans le débat d'idées et dans la formation intellectuelle de au moins deux générations de Français, du début du siècle aux années d'après-guerre, une place considérable, et donc il n'est pas question de nier ça. Ça ne veut pas dire qu'on va en dire du bien, ça veut dire qu'on va en parler,
oui,
en discuter.
Quand même, c'est pour les commémorations, on voit bien que quand on inscrit quelqu'un pour la commémoration, ça a quand même une connotation positive.
Tout dépend de ce
c'est
que,
un geste que l'on fait, ce n'est pas pareil que oui, de publier ou pas.
Tout dépend de ce que vous mettez dans le mot « commémoration ». Il y a eu beaucoup de débats sur célébration ou commémoration. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens du comité des commémorations, et notamment Pascal Horry et Jean-Noël Jeannet, ne sont pas spécialement maurrassiens. Donc s'ils l'ont mis là, c'est qu'ils estiment, comme ce que je viens de dire, que c'est sa place. Peut-être qu'il aurait été un peu plus judicieux de le mettre à la date de son procès ou à la date de sa mort. Ça aurait été intéressant parce que le procès de Maurras, c'est le procès d'une époque. Et c'est le procès d'un, justement d'un certain monde qui était révolu. Ça aurait été une meilleure synchronisation. Mais ça ne change rien. Maurras, oui, il faut en parler, bien sûr.
Alors, non pour ses idées, vous l'avez écrit sur votre blog, qu'aucun historien n'aurait le goût de célébrer, mais bien pour la place considérable qu'il a occupée dans l'histoire des idées politiques de la première moitié du XXe siècle. Donc aussi au nom de cette histoire nationale qu'il ne s'agit pas de gommer ou d'effacer. Gisèle Sapiro.
Oui, je suis d'accord seulement avec la fin, c'est-à-dire que si on commémore quelque chose, ça serait plutôt le procès, puisque c'est commémoration républicaine. Maurras a combattu la République toute sa vie, donc qu'est-ce qu'on commémore ? Maurras est une figure largement connue, on écrit dessus, il y a beaucoup de travaux, tous ses écrits sont accessibles à la Bibliothèque nationale, de même que les pamphlets de Céline sont parfaitement accessibles, moi je les ai lus à la bibliothèque, j'en ai, et qui y sont aussi en ligne. Donc le problème, c'est pas du tout l'accès au texte, en l'occurrence. Le problème, il y a la question de la commémoration, donc effectivement, c'est une institution un peu étrange, effectivement. Il y a plein de gens qu'on ne commémore pas, hein, qui ont eu aussi un rôle important. Quand on fait l'histoire intellectuelle, on découvre plein de figures qu'on a oubliées, mais qui avaient un rôle extrêmement important à leur époque. Et puis, alors, la publication des œuvres, enfin, des œuvres de Maurras dans la collection Bouquins chez Lafon, oui, on a publié Les Décombres de Rebatté, donc un pamphlet dans une collection qui se veut des étapes de la. Les grandes étapes de la pensée en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ? Qu'on publie un inédit de Drieux-La Rochelle, son journal, dans une collection de documents, c'est une chose, mais qu'on consacre Maurras dans le contexte actuel de la montée de l'extrême droite et qu'on refuse au même moment de publier les œuvres complètes de Julien Benda, qui sont beaucoup plus intéressantes, mais Pascal Angèle, le philosophe, avait proposé à la collection Bouquins chez Lafon et ça a été refusé. Ça dit quelque chose quand même, parce que évidemment, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que Maurras, Rebatté, Céline, ça va vendre. Pourquoi ça va vendre ? C'est pas pour l'intérêt, pour l'antisémitisme de l'époque. Ça va vendre parce que il y a une montée de l'extrême droite et ces textes, ils vont pas être lus pour la notation critique.
Donc ce serait un choix commercial plus qu'un choix éditorial.
Non, ça j'y crois pas du tout, Gisèle. Je vais vous dire pourquoi. L'extrême droite en question, elle a déjà les œuvres de Céline dans sa bibliothèque. Elle ne va pas attendre la semaine prochaine pour les découvrir ou les acheter. Quant à imaginer que les pamphlets de Céline seront un succès commercial, d'abord prêter à l'éditeur des œuvres de Céline cette pensée commerciale, je pense que vous vous trompez, parce qu'il édite tout de Céline, premièrement. Deuxièmement, ça sera un livre, en principe, de plus de 1000 pages, d'au moins 35 euros. Imaginez que ça soit un best-seller. Moi, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal.
Que vous auriez la responsabilité de préfacer, donc, chez Gallimard.
Oui. Les Décombres de Rebatté se sont très, très bien vendus. Hein.
Oui, mais c'est un livre qui se lit beaucoup plus facilement. Les Décombres de Rebatté, qui est un document très important sur la mentalité des Français des années 40, Les décombres,
de certains Français.
Ça se lit très bien.
C'est pas parce que ça se lit bien que ça se vend pas bien.
Non, mais ça se lit très bien.
Il n'y a pas forcément de rapport.
Les pamphlets,
c'est sûr qu'avec
ne se lisent
la publicité
très
faite
mal.
Autour de Céline et de ses pamphlets,
oui,
c'est évident que vous avez déjà un public large acquis. Et c'est pas uniquement l'extrême droite qui est en cause, c'est aussi peut-être d'autres parties de la population qui n'ont pas forcément, qui pourraient justement retrouver là.
Vous dites, Antoine, que ça se vendra certainement ou même sûrement. Moi, je peux vous répondre par le mot de Gaston Gallimard. S'agissant de tous les livres, on ne sait jamais rien du sort d'un livre. Jamais.
Antoine Mercier, la question de la fin.
Voilà. Alors, peut-être une dernière question quand même sur ces questions générales. Parce que moi, j'étais frappé de ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est la notion de récupération. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, il y a le processus qu'on voit des certains auteurs qui sont un petit peu mis à l'écart ou qui sont considérés comme du poil à gratter et qui ne font pas partie du paysage central de la littérature ou de la société. Ça s'est vu à toutes les époques. Et puis, il y a un processus de récupération progressif au bout d'un certain temps de toute chose. Est-ce que ce n'est pas ça qui est finalement le plus fascinant? Peut-être, si vous voulez dire un mot là-dessus,
Angie David,
sur la capacité à récupérer.
Bien sûr, c'est pour ça que moi je reste positive et que je ne suis pas donc justement dans cette théorie du complot où je pense que tout ça est très noir. Au contraire, je pense qu'en faisant ce travail, parce qu'évidemment il y a toujours quand même des voix discordantes, on finit quand même par les imposer. Je vous dis, ce qui est important, c'est la puissance de l'œuvre. C'est ce que disait Pierre Assouline sur Céline. À partir du moment où on a affaire à un grand écrivain ou un grand penseur, c'est ça qui restera. Et finalement, on ne pourra pas complètement l'empêcher. Et le progrès, si à un moment donné, il déraille, et si à un moment donné, il se veut justement lui-même un peu réactionnaire, finalement, sa logique du progrès reprend le dessus. Et évidemment, il évolue. Et lui-même va finalement adouber ces auteurs qu'il a pourtant, à un moment donné, proscrits.
Bon, ben bientôt peut-être, Angie David, un nouveau prochain volume approuvé, récupéré, à nouveau fréquentable, parce qu'il faut rappeler, et vous l'avez dit, c'est aussi une affaire de cycle et de bruit de l'époque. Certains écrivains viennent, s'imposent sur la scène littéraire, en sortent et peuvent aussi être récupérés ou réadmis sur cette grande scène éditoriale, plus que médiatique d'ailleurs, au fil du temps. Merci beaucoup à vous, Mohamed Aissaoui, le magazine littéraire de Figaro, le Figaro littéraire très présent sur ce Salon du Livre Paris. Merci beaucoup à vous, merci à nos invités et au public de France Culture qui est venu nombreux aujourd'hui vous écouter. Un grand merci aussi aux équipes techniques de Radio France qui sont là de l'autre côté de la vitre, à Élise Leu, Emmanuel Morse d'Incan, Tanguy Lecorneau, Martin Guénard et Benoît Chapon qui nous ont accompagnés. Merci à Perret Legras qui a réalisé cette émission et puis à toute l'équipe de la Grande Table qui l'a préparée, à Claire Maillot, à Clémence Marie, à Chloé Leblon, que l'on on salue tout particulièrement aujourd'hui à Copélia Ménardi et aux garçons Maxime Morin, Émile Boutelier. Merci à tous. Je vous dis rendez-vous lundi. D'ici là, très bon week-end sur France Culture. Bon vendredi d'abord, ici au Salon du Livre de Paris.